Fred, il voulait reprendre encore cette belle histoire de Bethesda dimanche passé. Voilà, et puis finalement, moi je suis revenu à la maison, le fait que lui il est revenu, et puis cette question, cette guérison, et cette question de Jésus qui dit « tu veux être guéri ?» Voilà, moi pour moi, quand ce n'est pas clair, ben, j'essaye de comprendre, et puis quand je ne comprends pas, je mets en attente. Ça veut dire, je ne comprends pas aujourd'hui, mais je comprendrai peut-être dans une semaine. Avec Dieu, c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas tout, on ne comprendra jamais tout. Dieu est puissant, grand, voilà, et nous comprenons juste partiellement les choses essentielles que nous avons besoin pour être sauvés. Et donc, je suis revenu sur cette histoire encore une fois. Et voilà, donc vous vous souvenez, on va lire ces versets encore. Donc, l'évangile de Jean, c'était ça. Hein. Le verset 5 et 8 nous dit, là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Donc, vous vous souvenez, Bethesda, il y avait donc de l'eau dans un réservoir, et puis on a dit qu'un ange descendait une fois de temps en temps, puis quand l'eau a été agitée, bougée, et si quelqu'un voilà, tombait, sautait dans l'eau, bah, il était guéri. Seulement, cet homme qui était là, depuis 38 ans, il n'a jamais été sauvé. Et on n'a jamais parlé de... On a dit qu'il y avait des guérisons, mais finalement, on n'a pas eu des gens qui se sont levés et qui ont dit, bah, oui, moi, grâce à un ange, j'étais guéri. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et donc ici, il y avait un malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, d'accord? C'était la désolation, hein, je vous ai dit. Et ce Bethesda, donc nous... symbolise, représente quelque part le monde dans lequel nous vivons. Pas d'espoir, la désolation, la maladie, la condamnation, les jugements. Amen. Autour de ça. Et puis Dieu est venu nous chercher, il nous a libérés de tout ça. Donc, voilà, Jésus, l'ayant vu, donc cet homme malade couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors voilà, Fred, on va encore discuter peut-être mardi de ça, mais on a discuté, c'est vrai. Et moi, je me suis dit, si Jésus a posé la question à cet homme qui était malade depuis 38 ans, c'est parce qu'il a ouvert le dialogue avec lui. D'accord? Il voulait semer quelque part la foi pour que cet homme puisse comprendre que c'est pas là, c'est pas un ange qui va descendre pour les guérir, mais... c'est Jésus qui guérit. Amen. Je suis là. C'est moi qui guéris. Il voulait l'interpeller pour lui dire, tu vois, j'avais 38 ans, mais là, c'est moi qui guéris. Moi, je n'ai pas besoin que tu attendes maintenant encore 38 ans. C'est tout de suite. Tu es guéri. Deuxième point important dans cette histoire. Voilà. Et puis certainement, je vais sortir encore d'autres parce que chaque fois quand on se met devant Dieu, il y a des pensées qui viennent. Un deuxième point dans cette histoire qui est encore aussi important, qu'on n'a pas dit. Voilà, Jésus arrive dans cette foule. Donc, il y avait 5 portiques, vous comprenez, voilà. Il y avait des gens partout, il y avait la foule. Il y avait beaucoup de malades. Et puis, voilà, Christiane, elle peut vous dire, elle fait des visites, etc., des choses un peu après son concert, etc. Et puis, elle rencontre les femmes se rencontrent qui avaient le concert. Et puis elle dit, mais je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mon langage est différent. Moi, je vis ça différemment, mais les femmes viennent complètement désespérées. Vous comprenez? Parce que, voilà, elles ont été peut-être atteintes beaucoup plus en profondeur que Christiane. Dieu l'a protégée. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que j'ai encore ma femme. Voilà, puis si je suis encore enflammé, vous avez vu, parce qu'elle est toujours enflammée, hein, vous avez vu ce matin. Voilà, donc, on est ensemble. Vous comprenez? Il y a la désolation. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas d'espoir. Ces gens-là ne se tournent pas vers Jésus. Et pourtant, Jésus est partout présent. Il est toujours là. Donc voilà, au lieu de que ces gens, voilà, dans cette désolation, au lieu de ces gens qui n'avaient pas d'espoir, ces gens qui étaient malades, qui souffraient, qui ne savaient pas ce qui va se passer, au lieu de se tourner vers Jésus, il était là. Au lieu de crier, Jésus, je veux ta guérison, je veux ton intervention. Eh bien, eux, ils pensaient à un ange qui va venir là-bas. Ils pensaient à une religion, une stratégie, à une philosophie, etc. Au lieu de se tourner vers Jésus, il était là. Vous savez, avec Dieu, c'est comme ça. Hein, quand vous allez prendre un TGV, et puis vous arrivez 5 minutes plus tard, avant, eh ben voilà, vous avez 5 minutes à décider, à trancher, à entrer dans le train, et puis vous rentrez, l'air est là, il est parti, c'est fini. Vous restez là. Eh ben, quelquefois, il y a des bénédictions de Dieu qui arrivent comme ça ponctuellement, et il faut les saisir. On n'attend pas, mais on sait. Donc voilà, de la même façon, aujourd'hui, actuellement, Jésus est là. Ce matin, Jésus est là. Amen. Combien il y a des gens qui sont sans espoir, sans espérance, complètement dans la désolation. Et au lieu de dire « Jésus, tu es vivant, Jésus, tu es là, Jésus, tu es présent, tu es partout », c'est juste saisir la grâce de Jésus. Amen. Voilà, les gens n'ont pas crié vers Jésus. Et bien, aujourd'hui, la même chose. Jésus est venu sur cette terre, il est venu chez les siens, il est venu dans ce monde, et qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Annick, qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Ben, on l'a crucifié! C'est terrible, non? Il est venu le sauver, ces gens-là. Et ces gens-là l'ont crucifié. Eh bien, alors vous savez, Jésus est venu sur cette terre pour transmettre la vie là où il y a la mort, la désolation. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, la condamnation, les jugements, etc. Là, Jésus est venu pour bouleverser, changer tout ça, tout simplement. Mais attention, ça a été parlé ce matin, la Sainte-Seine, les sérieux, la sainteté, la sanctification, pureté, tendez vos mains pures vers Dieu, ça c'est important. Amen. Je ne vais pas rigoler avec la grâce de Dieu. Donc Jésus est venu sur cette terre pour transmettre la vie là où il y avait la mort. Et toi et moi, l'Église, parce que toi et moi, vous et moi, on est quoi? On est une Église. Le corps de Christ, amen. Vous êtes d'accord? Voilà. Nous sommes le corps de Christ, l'Église vivante de Dieu. Donc, cette Église est appelée pour transmettre la vie aussi là où il y a la mort. Tu n'es pas là juste pour me faire plaisir, même si c'est vrai, on se fait plaisir. Mais ce n'est pas assez profond. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mais nous sommes là parce que nous sommes porteurs d'une bénédiction. C'est pour ça. Voilà mon intervention ce matin. Je voulais intituler « Soyons une source de bénédiction ». Soyons une source de bénédiction. Quand on parle de l'Église locale, c'est nous. Hein, il y a des églises locales partout. Quand on parle d'une église locale, la même chose, qu'une église locale soit une bénédiction, une source de bénédiction, je répète, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Je ne viens pas ici juste parce que je fais partie d'un club, je fais partie d'une dénomination, je fais partie d'une association, mais c'est plus que ça. Amen. Voilà. Donc, nous, l'Église, nous sommes appelés à transmettre la bénédiction autour de nous. L'épître de Romains, de Paul aux Romains, le premier chapitre nous dit, et le verset 11 nous dit quoi ? Car je désire vous voir. Voilà, Paul, le serviteur de Dieu, apôtre, il s'adresse à une église, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien vous voir ? Pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez enfermés. Alors maintenant, pour que ce soit plus clair dans tout ça, vous remplacez le mot communiquer par une transmission. Parce que ça dépend de la traduction, transmettre, la transmission. Je pense que communiquer, je te communique quelque chose, n'est pas assez profond ce que Paul voulait dire en grec, transmettre. Est-ce que le mot, Fred, toi, t'es à Gaulois, toi. Hein? Communiquer et transmettre. Transmettre. Communiquer une activité, voilà, peut-être, etc. Mais là, transmettre, c'est j'ai quelque chose et je te le donne. Est-ce que Anita, Rita, toi, tu es aussi gauloise, toi. Ça va? Voilà, transmettre. Donc, ça dépend les traductions. Il y a des traductions qui disent pour vous communiquer, d'autres pour vous enseigner, et il y a aussi pour vous transmettre. D'accord? Transmettre. Donc, je reviens car je désire vous voir pour vous transmettre quelques dons spirituels. Allô? Pas juste savoir-faire, quelque chose d'intellectuel, historique, mais transmettre quelques dons spirituels, si je vais ajouter encore quelque don surnaturel, quelque chose qui ne nous appartient pas, quelque chose qui est profond, quelque chose qui vient de la part de Dieu. Voilà. Parce que quand on étudie les épîtres de Paul, voilà, il est très enseignant, apostolique, apôtre, avec un esprit apostolique, ils sont un peu voilà, prophétiques et tout. Mais surtout, c'était un homme qui voulait toujours parler de miracles, mais d'une façon démonstrative. Voilà. Il nous a parlé dans un endroit. J'aimerais pas que vous soyez voilà, pris par l'intelligence, etc., la philosophie, mais il voulait que notre foi soit fondée sur la démonstration. Sur la démonstration du Saint-Esprit. Voilà. Donc, si je vais vous dire, je vais prendre le micro ici, d'accord ? Je vais parler de lui, mais je ne vais jamais prendre. Vous comprenez ? Mais si je vais le dire, je vais vous dire, maintenant, je vous montre que ça marche. Je suis démonstratif. Voilà, je prends le micro, je parle, et puis voilà, ma voix est amplifiée. Amen. C'est la démonstration. Donc là, la même chose, Paul, quand il parle de l'esprit, ce n'était pas juste intellectuel, mais démonstratif. Il voulait que notre foi, que la foi d'un peuple de Dieu soit enfermée, fondée sur la démonstration surnaturelle. Et c'est pourquoi il dit, quand je vais venir, c'est formidable ce que vous vivez, c'est formidable ce que vous chantez, c'est formidable la prière, c'est formidable on boit le café, il y a l'amour, etc. Mais Paul voulait dire, c'est bon tout ça. Mais quand je vais venir, j'aimerais vous transmettre quelques dons spirituels. Amen. Pour compléter. C'est pour ça, il ne faut jamais penser que vous connaissez tout, que nous sommes une église parfaite. qu'il n'y a rien de plus. Il ne faut jamais penser comme ça, c'est l'orgueil ça. Mais il faut accepter que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu me dire, « Antoine, voilà, je suis tellement heureuse, je suis tellement contente. Oh, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est tellement puissant. Mais maintenant, ben voilà, ça veut dire quoi? Aller plus loin. » Alors, ben voilà, ma responsabilité, c'était de lui dire, mais en même temps, de lui démontrer. Amen. C'est quoi? Ça veut dire quoi d'aller plus loin? Ça veut dire quoi d'aller plus en profondeur? Ça veut dire quoi vivre encore plus de démonstrations surnaturelles dans notre vie personnelle, dans l'Église, dans nos réunions, dans nos interventions, etc. Moi, je me tourne toujours vers Dieu pour lui dire, Seigneur, avec toutes ces années, ben, c'est formidable. Quel privilège hein, de prêcher. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est pas un orgueil, c'est pas une ambition, mais c'est un privilège. C'est tellement beau. Dieu, tu m'as appelé à prêcher l'Évangile, mais mettez-moi à ma place, à tous ces prédicateurs, à tous ceux qui sont là pour conduire le peuple de Dieu vers le cœur de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, voilà, ben moi, je te demande pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Quand, il n'y a pas longtemps, un couple est arrivé à la maison, et ils nous aiment, ils ne sont pas ici avec nous, dans une autre église. Et chaque fois, ils disent, oh, Antoine, Christian, si ce n'était pas vous, on ne serait pas là aujourd'hui ensemble. C'est beau, ça, hein? On ne serait pas ensemble, on serait déjà divorcés. Parce qu'il y avait toute une démarche. On a dû briser les choses, les liens, etc. Et quand je vois ce couple, Antoine, vous êtes comme nos parents. Vous nous avez aidés. Satan voulait nous détruire. Et moi, je vois. Ah ben voilà. Oui, je t'ai parlé. Oui, je t'encourageais. Oui, je t'ai cité les versets bibliques. Mais en même temps, le Saint-Esprit a confirmé cette parole et a brisé cet esprit de destruction, divorce, séparation, etc. Amen. C'est fort, hein? C'est fort. Tout le monde est attaqué. Donc, on va prendre encore deuxième référence biblique. Quelque don spirituel et à Corinthiens chapitre 15, le verset 3 nous dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Voilà, il a donné l'enseignement qu'il a reçu. Mais de qui? De Dieu. Que Christ est mort pour nos péchés. Voilà, regardez la profondeur. C'est vraiment être conscient que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, même si nous, les anciens chrétiens, on va toujours dire, « Ah, oh, mais je connais ça. J'aimerais apprendre autre chose. » C'est logique, on s'habitue très vite. Mais voilà, le désir de Paul, c'était que cette église soit consciente que Jésus est mort pour nos péchés, d'accord? Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On revient au début, je répète, je vous ai enseigné. Donc, une fois de plus, à la place d'enseigner, de toute façon, vous pouvez vérifier ça avec plusieurs traductions. Je ne suis pas là pour jouer sous les mots. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Voilà. Mais d'autres traductions disent « Je vous ai communiqué », d'accord, « communiqué » l'enseignement, et d'autres traductions, voilà, plus proches de l'original, c'est « Je vous ai transmis ». Je vous ai transmis. Allô? Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Et il a reçu beaucoup de choses. Hein? Oui, la parole du salut, le Saint-Esprit, les miracles, une puissance de libération. Ah ben, mes amis, nous, la même chose, nous, en tant qu'Église, nous avons reçu cette parole et notre devoir et la responsabilité, c'est communiquer plus que ça, enseigner plus que ça, tous ces mots sont valables, transmettre les surnaturels. J'ai eu privilège de vivre dans les églises clandestines. Quand je dis que privilège, c'est du côté, c'est côté spirituel, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas facile. Quand vous voyez, j'étais enfant, puis la police venait chercher mon père et d'autres, et qui nous considéraient comme des chiens. C'est pour ça, moi, j'avais difficulté d'accepter Jésus, parce que j'ai dit, si Dieu est dans tout ça... Ben, où on va? Ben, en Pologne, c'était comme ça. Quand j'étais petit, j'avais 19 ans lorsque je suis arrivé en France. Donc, mais j'étais tout petit. Maintenant, tout est différent. Voilà, donc, j'ai vu toutes ces choses-là. Et puis, chaque fois, quand je pense à mon père, ben, je dis, mon père a souffert pour l'évangile en prison. Il a souffert terrible. Dieu m'a accordé la grâce, quand on était aux vacances, c'est l'ami de mon père qui est décédé, et qui était cet homme, était pasteur, mon pasteur pendant un an et demi avant moi, quand j'ai quitté la France. Et il est décédé, il avait 91 ans. Et j'étais là, et j'ai dit, voilà, les ans passent, mais l'œuvre de Dieu avance. Et j'ai dit à son fils, le fils de cet homme, de Dieu, j'ai dit, tu sais, ton père et le mien, ils ont souffert pour l'Évangile. Ils ont souffert pour l'Évangile. Et chaque fois quand je pense à ça, j'ai les larmes aux yeux. Mon père a souffert pour l'Évangile. Mais pourquoi vous raconte ça? Alors, il y avait une puissance sur ces hommes. Mon père, quand il entrait dans une salle, c'était une église baptiste à l'époque, à cette époque-là, les baptistes, les pentecôtistes, c'était deux gros ennemis. Hein. Aujourd'hui, on s'aime, aujourd'hui, on aime tout le monde, on s'accepte, on accepte la différence. Mais les baptistes disaient que les pentecôtistes, ceux qui exerçaient le Saint-Esprit, sont des démoniaques, parce qu'ils prient dans d'autres langues. Et puis les pentecôtistes disaient, voilà, ils ne sont pas du tout chrétiens parce qu'ils nous jugent de cette façon-là. Alors vous voyez. Mais mon père, il a supplié avec le curé. Et j'ai vu ça. Le curé venait à la maison, se sont agenouillés, puis ils ont prié. Ils ont été sur la terre qui les unissait, mais ils n'allaient pas sur les terres qui les dispersaient. Et quand mon père, le Saint-Esprit lui a dit, tu vas aller dans cette église-là, on n'avait pas d'agenda. Lui n'avait pas d'agenda. Si la police venait, il cherchait des annotations, des choses comme ça, vous comprenez? C'était, l'agenda, c'était là. Puis quelquefois, voilà, tu prends une chemise et je t'envoie là. Et ma mère, elle savait que, ben, voilà. Il arrivait dans une église baptiste, voilà, tous figés. Surtout pas dire alléluia un peu plus fort. C'était terrible. Je parle avec beaucoup d'amour. Je connaissais les gens. Puis mon père, il a ouvert la porte. Et le baptême du Saint-Esprit est tombé sur tout le monde. Il y avait au moins 80 personnes. Mais sur tout le monde, il n'y avait pas un qui est resté sur le côté. Il y a celui, dans ces églises, il n'y avait pas de ministère officiellement. Personne ne disait « je suis pasteur ». Les gens savaient, mais ils n'avaient pas d'étiquette parce que si la police venait et ils demandaient « qui est responsable ?»« Qui est votre pasteur ?» Ben, tout le monde disait. Bon, on n'a pas de place dans la camionnette pour tout le monde. Ah, c'était comme ça. Il n'y avait pas de pasteur, pas de... Entre eux, oui. Et c'était... Donc le responsable, Baptiste, là, qui était là, ben, il était terrassé complètement. Je vous dis ce que j'ai vu, ce que... Voilà, moi je ne discute pas là-dessus parce que j'ai vécu des choses. Terrassé, et puis il a tourné comme ça. Lui qui était surtout, ce sont des sataniques, les pentecôtistes. Les pentecôtistes à Pentecôtiste, un homme des villages, un villageois, il ne savait même pas bien écrire. Il rentre dans une maison, 80 personnes, tous terrassés par terre. La puissance de Dieu, il y avait des gens qui sautaient là-bas, il y a des gens qui priaient aux langues, il y a des gens qui sautaient comme ça dans tous les sens. C'était le bazar, humainement parlant, désordre, complètement désordre. Et puis Dieu était là, là-dedans. Dieu était là. Mon père a vécu ça, il y a un mouvement aujourd'hui qui fonctionne, parce que Dieu s'est servi de lui et d'autres personnes. Et chaque fois qu'on... Nous allons, je vous raconte ça maintenant, je vais vous raconter un peu plus, parce qu'avant je ne voulais pas trop parler de mon passé. Voilà, puis chaque fois quand mes enfants vont là-bas, bah, si vous voyez, bah, maintenant vous marchez sur les traces de vos grands-parents. Mon grand-père qui a souffert pour l'Évangile, ah bah, il m'a transmis l'Évangile. Quand il m'a parlé à un fils comme à un fils. Et tout à coup, il y a une puissance de Dieu qui descendait sur lui. J'étais plus son fils. Il n'était pas mon père. C'était une présence de Dieu qui me parlait. Moi, je tremblais comme ça. Une fois, il m'a parlé de l'enfer. Il a vu l'enfer. Il m'a raconté ce qu'il a vu, tout ça. Et moi, j'étais comme ça. Une puissance de Dieu. Ce n'était pas quelque chose intellectuel. Ce n'était pas quelque chose juste mise en scène. Mais il y avait Dieu dans tout ça. Il y avait Dieu dans tout ça, les choses qui bougeaient. Et puis voilà, moi je vois aussi les jeunes qui poussent derrière nous, vous les jeunes. Alors moi je vous encourage,